d'emploi. Mode d'emploi.
Très... 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons ce soir Jean-Marie Maillard, chercheur à l'université Pierre et Marie Curie, et qui va nous parler de l'évolution, l'évaluation, les changements, le bilan de tout ce que les différents gouvernements successifs ont fait subir au monde de la recherche. Mais bien entendu, nous attaquons par les chroniques de Jean-Marc, qui va d'abord nous faire une petite batterie de petites brèves d'actualité, en commençant, si j'ai bien compris, mon cher Jean-Marc, par le renouveau du pacte germano-soviétique.
Oui, en fait, le pacte germano-soviétique, pour les plus de 20 ans qui ne savent pas, etc., ça rappelle de mauvaises surprises, de très mauvaises surprises. Ça rappelle l'avant-seconde guerre mondiale, lorsque Hitler et Staline, ces deux chers dirigeants très démocratiques, se sont alliés, une alliance contre nature entre des communistes et des fascistes, c'était tout à fait logique. Or, il y a un rapprochement contre nature qui est en train de s'opérer peut-être entre deux champions de la démocrature, ce ne sont pas des dictateurs au sens propre, à savoir Poutine et Erdogan. Le premier, d'ailleurs, ne déteste pas être comparé à Staline, et le deuxième se compare lui-même volontiers au dictateur autrichien, donc ce qui rend la comparaison encore plus opérante. Il y a peu, ces deux dirigeants se détestaient. On était à la limite, il y a encore 2 ans, d'un conflit ouvert entre la Russie et la Turquie lorsque la Turquie a descendu un avion russe. Une tension récurrente qui dure depuis plusieurs siècles entre la Turquie, la Russie, l'Union soviétique, puis de nouveau la Russie. Ce qui explique pourquoi la Turquie a toujours été, depuis la création, presque dans l'OTAN, donc sous la protection des États-Unis. Or, ce qui est original en ce moment, c'est que Erdogan s'entend assez mal avec les Américains, à tel point que Obama a même retiré les bombes atomiques qui étaient stockées en Turquie avant de partir. Et aujourd'hui, Erdogan, contre toute attente, 2 ans après être passé à 2 doigts de la guerre avec la Russie, semble acheter des armes à la Russie, qui semble vouloir les lui livrer. Donc on arrive à un renversement total dans la région qui n'augure rien de bon, vraiment rien de bon, et on peut se demander dans ce nouveau pacte germano-soviétique qui sera la nouvelle Pologne.
Ah donc, c'est pas un traité germano-soviétique, mais turco-poutinien, si on veut donner un nom au gouvernement russe qui n'est loin d'être soviétique, mais qui est bien poutinien, c'est cela. Alors on continue avec la radicalisation, mais là ici c'est la lutte contre la radicalisation ici en France.
Oui, alors c'est un sujet grave, il faut l'aborder donc avec gravité. Nous sommes dans une période de terrorisme important et donc on lutte beaucoup contre la radicalisation, notamment la radicalisation des jeunes. Et il faudrait peut-être s'en préoccuper, notamment au sein de La République En Marche, ou à ses marges, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas de La République En Marche, qui sont au gouvernement, notamment un jeune homme qui s'appelle Darmanin, et qui doit être impérativement déradicalisé, puisqu'il fait de l'ultra-libéralisme ultra-radical, et l'un des symboles de cet intégrisme, qui est très en vogue au sein du gouvernement et de la majorité Croupion au Parlement, c'est qu'il ne faut rien donner à l'État coûte cher, il faut tout enlever à l'État. Et l'une des choses, c'est de supprimer le jour de carence de remettre le jour de carence aux fonctionnaires. Il faut savoir que c'est purement idéologique, ça ne sert absolument à rien, ça ne rapporte rien, mais il s'agit juste de montrer que les fonctionnaires sont des méchants et que l'État, le nouvel État fort macronien, va s'en occuper.
Tu l'as bien dit. On sent que tu es concerné par certaines carences.
Nous sommes tous des concernés.
Alors, en parlant de gens concernés, tu veux nous parler d'un grave problème qui se passe en pleine mer. Ce sont le problème des yacht people.
Oui, alors il faut, là aussi, on fait appel aux mémoires des plus anciens. Dans les années 70, il y a eu des problèmes au Vietnam et au Cambodge, et notamment avec les Khmers rouges, et une partie des Cambodgiens partaient donc sur des bateaux surpeuplés, et c'est là qu'on a trouvé un terme pour les décrire, les boat people. Et La République En Marche, encore elle, est en train de ressortir ce vieux concept, et en nous faisant larmoyer sur les très riches qui ne vont pas avoir assez, puisque finalement, La République En Marche va taxer les yachts. Donc nous allons avoir des pauvres gens, les yacht people, donc ces gens qui sont riches, ultra riches, et qui vont devoir changer le pavillon de leur yacht pour ne pas payer cette taxe sur les yachts de plus de 30 mètres. quand même, c'est de la valeur. C'est comme la Rolex à 50 ans. Si on n'a pas un yacht de plus de 30 mètres à 40 ans, c'est qu'on a raté sa vie.
Je crois que Florent Pagny et Michel Sardou veulent faire une chanson sur les yacht people pour les aider face à leur grave dérive.
Ne m'appelez plus jamais France.
Voilà. Alors, une petite fable pour terminer.
Allez, une petite fable. Alors, un voleur prit un jour 10 poules en un poulailler. La logique eût voulu qu'il fût emprisonné. Mais à la surprise générale, le roi l'invita à revenir. Et pour l'encourager à cheminer à loisir, lui proposa de l'indemniser d'avoir dû partir. Pour échapper à la police et à ses sbires, pour financer du voleur l'indigne indemnité, le souverain taxa les pauvres avec fermeté. Si vous voyez en cette fable énervée un lien avec les fiscaux exilés et le sinistre qui crèche à l'Élysée, ce ne sera que justice et réalité.
Une fable comme on aimerait en entendre moins souvent quand même. Alors, ça nous a stressé toute cette actualité, vraiment. Alors Patrick va nous parler du stress.
La jungle urbaine, piquée de hautes tours où s'entassent à la verticale et à l'horizontale la faune urbaine laborieuse, où se côtoient mâles et femelles. La faune travailleuse se doit d'être productive, se doit d'être stressée. Stress du mâle dominé, stress de la femelle dominée, muscles et neurones exacerbés, bandés vers l'objectif à atteindre, le temps, plus de temps pour la nourriture, le sommeil, les femelles ou la femelle. Plus de temps pour la nourriture, les enfants, le sommeil, les mâles, le mâle. Mâle dominé, harcelé par le travail. Femelle dominée, harcelée par les mâles, harcelée par le travail. Mâle dominant, dominé par le stress. Stress du rendement, stress de l'autorité, stress de la solitude. Les mâles dominants harcèlent les femelles dominées. Les mâles dominants harcèlent les femelles dominantes, qui deviennent dominées. Oui, bon, oui, d'accord, oui, mais... vexation des femelles non harcelées, pourquoi pas moi ? Raconte les mâles harceleurs. Le mâle dominant dominé et le mâle dominé harcèlent à l'unisson. Par compensation. La femelle dominée, pas de compensation.
C'est un bilan comptable. Tout à fait.
Oui.
Alors, le harcèlement existe dans les rues de France, mais nous allons parler d'un harcèlement qui concerne tout un peuple, et ce peuple, c'est le peuple kurde.
Alors, les Kurdes sont l'un des peuples les plus anciennement installés dans la région, donc, et paradoxalement, bien qu'ils soient parmi les premiers arrivés, ils n'ont pas été les premiers servis. Ils n'ont pas d'État, malgré l'espoir suscité, il y a presque un siècle de cela, par le traité de Sèvres, en 1920, qui avait prévu une province autonome kurde, et certains, à l'époque, disaient même un État kurde. Sauf qu'il n'y a jamais eu de suite. Alors les Kurdes aujourd'hui sont dans une situation assez particulière qui dure donc depuis 1920. Ils sont écartelés entre quatre États, la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak. Les Kurdes ont été très chanceux. Ils ont été massacrés à répétition par les Turcs, par le père Assad, Hafez el-Assad, ou par Saddam Hussein qui les a traités à coups de bombes et de gaz toxiques. À tel point que l'un de ses alliés a été surnommé « l'île toxique ». En Turquie, le PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan, a mené une guérilla anti-turque d'obédience marxiste-léniniste pendant très longtemps contre le pouvoir d'Ankara et qui a toujours été anti-kurde, plus ou moins de manière exacerbée selon les périodes et selon les dirigeants. Öcalan, le leader charismatique et traditionnel de ce PKK, a été arrêté donc à la suite d'une opération rocambolesque en 1999 et il purge une peine à perpétuité depuis et réussit à communiquer avec l'extérieur, mais évidemment le cœur n'y est plus. Alors il a changé de stratégie depuis sa prison et il a tenté la carte politique, et il faut dire avec un certain succès, sauf que ce succès a été démenti par le fait qu'un certain président, un certain premier ministre qui est ensuite devenu président, Erdogan, ne rêvait que d'une chose, c'est de relancer la question kurde pour surtout couvrir ses malversations et sa politique intérieure désastreuse. Donc le processus de paix a été foutu en l'air par Erdogan et là-dessus est arrivée donc la guerre en Syrie.
Alors, dans, entre-temps, il faut aussi parler de la situation des Kurdes d'Irak, qui a radicalement changé avec les deux guerres du Golfe. Les deux guerres du Golfe, successivement, ont mis à bas l'État irakien, et les Kurdes, de ce fait, se sont retrouvés en situation d'autonomie, voire de quasi-indépendance, du pouvoir irakien, qui est incapable d'assurer l'unité du pays, avec notamment les divisions entre chiites et sunnites.
Donc cette autonomie, c'est une très bonne nouvelle pour le peuple kurde.
Alors, cette autonomie a été un premier pas, et c'est bien comme ça qu'ils l'ont fait, et leur leader, Barzani, a su en profiter pleinement. Et pendant toutes ces années, il a réussi à profiter aussi de la manne pétrolière, puisqu'une partie de ce Kurdistan irakien est bourrée de pétrole. Donc, profitant des divisions entre chiites et sunnites, les Kurdes ont fait leur petit bonhomme de chemin en Irak. Et cette autonomie s'est retrouvée de manière inattendue, renforcée par les problèmes en Syrie et par la percée de l'EI. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait les Kurdes ont participé dès le début à la révolte anti-Assad en Syrie, mais quand l'EI a fait sa percée militaire, ils ont défoncé la frontière syrienne et irakienne, ont envahi toute une partie de l'Irak, et les seuls qui ont été à même de retenir une partie de l'EI ce sont les Kurdes irakiens, qui ont réussi à contenir un tout petit peu dans leur région et à préserver un peu leur région, tandis que la moitié du territoire irakien était envahi et que sans l'arrivée à la rescousse des Américains, l'État irakien aurait peut-être disparu. Donc, ça a renforcé leur autonomie, qui est devenue une quasi-indépendance à cause de ce qui se passe en Syrie. Alors, c'est en profitant justement de cet état de fait que Massoud Barzani, qui est donc le leader historique des Kurdes irakiens, a lancé un grand référendum qui a eu lieu le 25 septembre 2017 et qui a été évidemment tout de suite dénoncé par le pouvoir irakien, qui y voit une volonté évidente de se séparer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et cependant, il faut quand même remarquer que ce référendum ferait pâlir n'importe quelle démocratie occidentale. Pourquoi ? Bah parce qu'en plein, dans un pays qui est en conflit permanent depuis plus de 20 ans, les Kurdes ont réussi à organiser un scrutin valable, un scrutin donc avec un taux de participation énorme et un résultat absolument sans appel, puisqu'on est au-delà de 92% favorable à l'indépendance du Kurdistan. Donc, par rapport évidemment à l'actualité en Catalogne, qui est nettement plus folklorique, ça laisse rêveur. Alors, ceci étant, les Kurdes ne sont pas sortis d'affaire, puisque pour que l'État kurde puisse exister, il faut non seulement qu'il se soit prononcé par référendum, mais aussi que des puissances étrangères les reconnaissent. Or, personne dans la région n'est prêt à les reconnaître, sauf, et c'est assez amusant, Israël. Israël qui pourrait reconnaître l'État kurde irakien, enfin les Kurdes d'Irak comme un État, on peut le dire, pour faire chier les pays arabes alentour. Donc, mais ceci étant, ça pourrait être intéressant parce qu'il faut au moins un État qui reconnaisse pour arriver à devenir un véritable État. Alors, ceci étant, Barzani est un bon joueur d'échecs et il joue sur la couardise des Occidentaux qui, un coup, soutiennent les Kurdes parce qu'ils n'ont pas le courage d'envoyer des troupes au sol. Donc, il peut s'appuyer à moitié sur les Occidentaux. Il est sûr de l'opposition totale des Turcs qui craignent justement l'insurrection des Kurdes de Turquie. Il est sûr d'avoir l'opposition des Saoudiens et des Qataris qui n'aiment pas les Kurdes parce que les Kurdes sont un peu trop laïcs pour eux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'Iran, qui a pourtant une minorité kurde non négligeable, pourrait, à la limite, soutenir l'indépendance pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il s'agirait d'emmerder, là encore une fois, l'Irak voisin, le vieil ennemi. Depuis la guerre Iran-Irak, les Iraniens et les Irakiens ont des vieux contentieux à régler, et ça pourrait être un moyen, justement, de diminuer la puissance irakienne. Deuxième chose qui pourrait aller dans le sens justement de la reconnaissance de cet État, c'est que les gouvernements irakiens qui se sont succédés sont absolument incapables d'assurer la pérennité de l'État irakien à cause des différends entre chiites et sunnites. Et les Américains commencent à en avoir marre de venir jouer les pompiers tous les 4 matins entre chiites et sunnites. Et donc peut-être pourrait-il changer de braquet sur le Kurdistan irakien. Et pour finir, Barzani joue aussi autre chose. Il pourrait obtenir une certaine bienveillance de la Russie et pourquoi pas de la Syrie de Bachar el-Assad, ainsi que de l'Iran pour une autre raison. C'est que si l'Iran. Si la Russie se montrait un petit peu gentille avec les Kurdes, ça leur donnerait un visage presque humain qui leur permettrait en échange d'échanger la tête de Bachar el-Assad pour le remettre au pouvoir en Syrie. Donc c'est un véritable poker kurde que Barzani a lancé. Et il faut voir aussi qu'il y a un problème intra-kurde, c'est qu'il y a trois obédiences kurdes, les Kurdes de Turquie, version Öcalan, qui étaient marxistes-léninistes et qui sont devenus plus libertaires, les Kurdes syriens qui sont marxistes-libertaires, et les Kurdes irakiens qui sont plus sur une démocratie plus traditionnelle et qui veulent profiter de la situation pour assumer leur leadership. Puisqu'ils sont les seuls à pouvoir organiser un référendum, ils l'ont fait, ils l'ont gagné. Et donc Barzani cherche aussi à prendre la tête de l'international kurde.
Voici un bilan circonstancié. Alors on verra bien ce que dira l'histoire, mais l'histoire c'est aussi des mauvais souvenirs. Et il y a 30 ans, enfin ce dimanche, ce sera 30 ans, qu'a été assassiné Thomas Sankara. On écoute Alpha Blondie, une fois n'est pas coutume, avec un peu de reggae.
Are you ready, Sankara?
Vengeance, en vengeance. 106.3, fréquence Paris pluriel, l'émission Monde d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Notre principal sujet du jour est de parler d'évolution de l'université et surtout de la recherche. Mais on va commencer par parler un peu de l'université, par un sujet qui a rempli les médias en cette rentrée, c'est la sélection à l'entrée de l'université. N'est-ce pas, Gaël?
Oui, vous avez sûrement été tenu en haleine tout l'été par le feuilleton APB. APB, c'est le système admission post-bac pour l'admission des bacheliers dans le supérieur. Est-ce que les milliers de bacheliers sur le carreau allaient trouver une place dans le supérieur? Alors finalement, on s'en est plus ou moins bien sorti. Mais surtout, la ministre et les gens qui partagent son idéologie en ont profité pour avancer l'idée de prérequis à l'entrée de l'université. Elle a enfermé le débat dans une fausse alternative. Est-ce que vous préférez le tirage au sort injuste de APB ou les prérequis? Forcément, on préfère les prérequis. Et ce faux débat permet de faire oublier le vrai scandale, puisqu'on savait depuis les années 2000 que 18 ans plus tard, on aurait beaucoup d'étudiants à l'université et on n'a rien fait. En 2017, par exemple, alors qu'on a 40 000 étudiants en plus, c'est 331 millions de crédits annulés sur le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors les prérequis, c'est pas une idée neuve. Dès 67, le général de Gaulle voulait sélectionner à l'entrée de l'université pour faire face au doublement du nombre d'étudiants en 10 ans. Déjà une histoire de baby-boom. Et mai 68 est passé par là, et le projet a été abandonné. Il y a eu des projets similaires en 76, en 86, avec De Vaquet, qui ont été abandonnés suite à des grèves massives d'étudiants.
Le baby-boom, c'est une histoire de kamikaze ou pas?
Le bébé kamikaze.
Pour justifier les prérequis, la ministre agite un chiffre repris par tous les journalistes, ce sont les 60% d'échecs en première année à l'université. Et face à ça, une seule solution, la sélection. Alors en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 60% d'échecs? Il y a certes de vrais échecs, mais il y a aussi, par exemple, des étudiants qui ne sont jamais venus simplement parce qu'ils ont commencé une autre formation, ou qu'ils ont pris un emploi, ou qu'ils ont réussi un concours de la fonction publique. Également des étudiants qui décident de se réorienter l'année suivante parce que la formation qu'ils suivent ne correspond pas à leurs attentes et s'arrêtent en cours d'année. Il y a aussi des gens qui s'inscrivent juste pour avoir le statut d'étudiant, pour avoir un titre de séjour. Donc tout ça qui ne sont pas de réels échecs est assez difficile à évaluer et on n'a pas de chiffres. En revanche, il y a des chiffres un peu plus encourageants que ces 60% d'échecs en L1 et qu'on devrait sortir un peu plus. Par exemple, sur un panel de 12 000 étudiants inscrits en L1 en 2008, on a observé leur situation 3 ans plus tard. Alors certes, il n'y avait que 35% d'entre eux qui avaient obtenu une licence, mais 47% étaient encore en formation, en dehors de ces 35% qui avaient la licence. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient soit en L1, en L2, en L3 ou réorientés en BTS. Et seuls 18% avaient abandonné les études. Autre chiffre, si on regarde le taux d'étudiants qui sortent de l'enseignement supérieur sans diplôme, il est de 20% en France, alors que la moyenne des pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays riches, est de l'ordre de 30%. Et pourtant, la dépense moyenne par étudiant en France est à peu près la même que la moyenne de l'OCDE. D'ailleurs, à ce propos, il faut juger les taux de réussite de l'université en les ramenant à la dépense par étudiant et au taux d'encadrement. À l'université, on dépense 11 000 euros par étudiant et par an, en moyenne, contre 15 000 euros en classe prépa. À l'université, le taux d'encadrement est de 17 à 53 étudiants par équivalent temps plein enseignant. Ça dépend des filières. Donc entre 17 et 53 contre 8 étudiants en prépa par équivalent temps plein enseignant. Et pourtant, à l'issue de la prépa, eh bien, il y a 27% des étudiants qui quittent la prépa sans intégrer une école. Cet échec de la prépa, on n'en parle pas. Alors, pour justifier les prérequis à l'entrée en licence, la ministre donne souvent l'exemple de bacheliers littéraires qui s'inscriraient en licence de sciences et qui louperaient, ou de bacheliers pro qui n'ont aucune chance en licence. Ces exemples, en fait, sont complètement déconnectés de la réalité, puisque les bacs pro, c'est 5% des étudiants de L1. Et dans les licences scientifiques, ou en STAPS, il n'y a que 10% de bacheliers non scientifiques. Donc les prérequis, c'est une barrière finalement contre des envahisseurs imaginaires qui d'ailleurs ne demandent même pas à venir à l'université. Sur APB, il n'y a que 6% des bacheliers professionnels qui mettent la L1, c'est-à-dire la première année de licence, comme premier choix. Donc finalement, cette histoire de prérequis, c'est surtout un problème mal formulé, avec des chiffres manipulés, qui dessert une vision idéologique, c'est-à-dire que pour ces gens-là, l'accès à l'enseignement supérieur, ce n'est pas un droit.
Alors ces gens-là, on le répète, c'était notre ministre, c'est ça dont tu voulais donner l'opinion. Alors on verra bien la prochaine rentrée, mais effectivement le mot sélection, le mot prérequis va être le nouveau vocabulaire pour beaucoup d'étudiants qui ne savent pas où ils vont pouvoir faire leur choix d'acceptation en université ou dans différentes formations.
Mais chez ces gens-là, monsieur, on ne sélectionne pas, monsieur.
Justement, jusqu'ici, l'université, c'était pas la sélection, c'était ouvert. D'abord, le mot université, c'était quand même un petit peu le mot universalité qui était derrière. Alors, ça, c'était le problème de l'université. On voit l'avenir pas forcément rose, mais quelque chose qui est bien, peut-être déjà bien dans le noir, ou en tout cas dans le gris profond, c'est le monde de la recherche. Alors, on reçoit aujourd'hui Jean-Marie Maillard, qui est chercheur à l'université Pierre et Marie Curie, qu'on appelle aussi Paris 6, et qui est aussi syndicaliste au syndicat, enfin, à la centrale syndicale FSU. Alors, on va prendre plusieurs sujets. Donc, bonjour Jean-Marie, d'abord.
Bonjour.
Merci d'être là. Et on va parler tout d'abord de l'évolution sur ces dernières années du fonctionnement du monde de la recherche. Alors, le monde de la recherche, c'est des universités, des organismes de recherche, comme le CNRS, qu'on connaît bien en général tous. Et pourtant, beaucoup de réformes ont eu lieu sans changer. L'université existe toujours, le CNRS existe toujours, mais derrière ces mots, il y a eu tellement de changements qu'il faut peut-être un peu rentrer dans les détails. Alors, on commence par l'université, par exemple.
Oui, et d'abord, réforme ou contre-réforme, parce qu'il y a une succession, on a subi depuis 10 ans une succession de contre-réformes. Alors, on peut les citer, à chaque fois, il y a des acronymes. Il y a la LRU qui était là, on démarrait avec la, ou loi Pécresse, Pécresse-Sarkozy, on démarrait avec cette loi sur les responsabilités, loi universitaire, puis les RCE, donc, compétences élargies, donc qui était censé donner plus d'autonomie aux universités avec des moyens qui ne sont évidemment jamais arrivés. La dévolution, eh bien, c'était encore plus d'autonomie, les universités étant responsables de leur patrimoine. Donc vous imaginez un peu quand on a très peu de moyens récurrents d'argent, de budget qui arrive, et puis on doit être responsable d'un patrimoine très important pour l'université de Paris 6, c'est à peu près 1 demi-milliard d'euros, voire 1 milliard, et je sais pas, imaginez, vous devenez responsable du château de Versailles alors que vos revenus sont essentiellement à RMI, vous avez quelques problèmes quand il s'agit de changer la toiterie, les toitures. Et puis là, on est avec les nouvelles étapes qui ont été les presses, les commuées, en fait tous ces regroupements universitaires qui étaient où on mettait ensemble des structures universitaires qui étaient déjà très très grosses et à la limite du dysfonctionnel, en tout cas de grosses usines à gaz, et on mettait ensemble des usines à gaz, on rajoute des tuyaux, et là on est avec ces derniers dispositifs de fusion qui sont la cerise sur le gâteau, allant à des sommets de dysfonctionnels. Quand on voit ce que sont devenues les différentes universités fusionnées de France et de Navarre, que ce soit à Strasbourg, Aix ou Bordeaux, en vous rajoutez des surcouches de management, de tuyaux justement entre ces différentes usines à gaz, et ça fait une pression et un stress. Alors sur les personnels, par exemple sur on peut citer sur Strasbourg, il y a eu à peu près 4 suicides en 4 ans. Bordeaux, vous avez 70% des personnels qui sont en souffrance psychologique, et puis essentiellement des tâches du quotidien qui étaient déjà compliquées, style faire un bon de commande ou autre, deviennent quasi impossibles dans ces, ou un chemin de croix dans ces structures devenues hyper lourdes.
Alors ça c'est une longue liste, hein, donc ça représente pratiquement 15 ans de réformes, de lois, de projets un peu plus compliqués, parce que finalement au lieu de mettre une loi obligatoire, il a fallu aussi que les conseils d'administration des universités l'acceptent. Et ça, c'est une démarche assez compliquée. On peut prendre l'exemple de la LRU, par exemple.
Absolument.
Comment elle a été faite gober aux universitaires?
Alors, d'abord, elle a été imposée, parce qu'on se souvient de cette loi Pécresse-Sarkozy. Il y a eu des mouvements très forts, qui ont... Alors, les gens se rappellent ou ne se rappellent pas de ces mouvements avec les mouvements SLR et beaucoup de chercheurs, enseignants-chercheurs et d'étudiants dans les rues pendant, je me rappelle à l'époque, sur ne serait-ce que sur le site de Jussieu, on avait organisé 25 AG, 25 amphithéâtres, 25 manifestations, 25... Bon. Et au bout d'un moment, on finit par ne plus trop savoir comment faire ces nouvelles manifestations et être un peu créatif. Donc à la fin, on finissait par... On a fait une manif de droite, par exemple. On a fait tout un ensemble de choses. Donc on peut pas dire que on a été dans le banal syndicalisme embêtant et avec des slogans éculés, etc. Il y avait un vrai mouvement très vivace, mais
un mouvement de non militants, dire des gens qui étaient dans la rue alors que d'habitude ils ne vont pas dans la
absolument,
rue.
Absolument.
C'était vraiment pour témoigner de la fin de quelque chose et la fin de quelque chose, quoi, cette rupture, c'est le mot que tu emploies d'habitude, la rupture historique. C'est parce qu'il y avait une sorte de démocratie réelle dans l'université d'avant 2007 et un changement avec cette loi LRU.
Absolument. Alors tout n'était pas parfait, mais effectivement cette loi faisait ne serait-ce que dans ses dispositifs électoraux, un véritable verrouillage où on a un mode de scrutin qui est tout à fait censitaire, où le bourgeois va compter 10 fois plus que l'ouvrier, le bourgeois étant le PUPH,
le professeur d'université, hospitalier, typiquement.
Voilà. Et les biatos, c'est-à-dire ingénieurs, techniciens administratifs, bibliothécaires, eux ont une voix qui est pondérée infiniment moins. On crée des effets de seuil qui font que on veut faire... essentiellement, on voulait faire un mode de scrutin qui soit l'analogue strict de ce qui se passait dans les communes, dans les régions. Il s'agit de faire une majorité, et faire une majorité où on est bien sûr qu'à la fin du jeu, ce ne sont pas les maîtres de conférences et les ingénieurs, techniciens ou autres qui vont gouverner les universités, mais les mandarins. Et donc quand on voit par exemple comment se sont passées les toutes premières élections LRU, on a eu du 50-50, on avait les rambés, donc ces maîtres de conférences qui gagnaient majoritairement les élections sur les rambés, sur des listes d'opposition à la LRU, et évidemment tous les mandarins qui étaient du côté du Manche et du côté pécrétien, sarkozyste. Bon. Et à la fin, les choses se faisaient par... parfois des achats, des choses un peu bizarroïdes, mais qui ont fait qu'à la fin des fins, je sais pas si au football c'est l'Allemagne qui gagne, mais là c'était les PUPH, donc les mandarins de médecine, c'était les professeurs de droit ou bien les économistes orthodoxes qui gagnaient, et en aucun cas, jamais, des scientifiques, quel qu'il soit, physicien, chimiste, peu importe, mathématicien, des humanistes, donc là, il y avait une vraie logique de pouvoir qui était absolument voulue.
Et... Parce que je veux dire qu'avant, quand les élections avaient lieu avec l'ancien mode de scrutin, il y avait un partage un peu plus équitable.
Oui, les choses étaient plus... c'était pas rêvé, mais enfin, en tout cas, il y avait...
Et le président n'avait pas tous les pouvoirs.
Absolument. Et donc là, il y a une logique de présidentialisation, d'homme, de leader maximo qui a tout pouvoir. Il y avait une véritable volonté. Et là, il y a une vraie convergence de la gauche et de la droite, hein, de faire en sorte d'avoir des systèmes.
Pas de la gauche, pas de la gauche, de la fausse gauche.
Oui, voilà, du PS. Donc justement, ça a bien été ça le problème, c'est-à-dire que on peut dire, bon bah oui, à l'époque Pécresse, Sarkozy, ils sont méchants, ils veulent transformer les universités en entreprises. Bon, mais la grosse cassure qu'il y a eu, deuxième, c'est que au moment de la LRU 2.0, comme on l'a appelé, de la loi Fioraso, là on a vu au contraire un renforcement de tous les dispositifs sarkozystes et de cette destruction de la démocratie universitaire, avec l'idée que essentiellement il fallait avoir un président d'une très grosse université, donc il fallait les réunir entre elles pour faire de gros magmas informes et dysfonctionnels, mais on a un chef, un président qui a tout pouvoir et qui discute avec le président de région, et donc ça tombe très bien parce que quand le président de région voudra donner un peu d'argent au président de l'université pour montrer comme il est impliqué dans les défis du troisième millénaire et autres big data ou que sais-je dans de magnifiques magazine quadricromie onéreux, eh bien, il n'a pas à se soucier, mon Dieu, je vais le donner à la chimie, à la biologie, aux maths, ou bon, je donne à un personnage qui a tout pouvoir et qui après dispatchera. Donc il y avait une vraie logique de pouvoir et de concentration des choses à travers un chef. Donc il y a des logiques managériales, néo-managériales, qui ont été mises en place et à chaque fois par couches successives et par et avec à chaque fois un effet de cliquet qui fait que on fait ces réformes et on ne peut plus revenir en arrière. Les gens qui pensent que il y a des cycles et que mon Dieu, il y a la complexité des choses, à un moment donné on est dans une période comme ceci mais on pourra revenir en arrière. Non, là tout est fait pour que jamais il ne puisse y avoir de retour en arrière et tout va à chaque fois dans le sens d'une destruction de la démocratie, une destruction de la collégialité, une destruction de nos métiers. On y reviendra peut-être.
Il y a un mot phare de cette période, c'est le mot gouvernance.
Oui, bien sûr.
On entend énormément.
Absolument. Il y a eu aussi des mots comme effectivement d'évolution. On a employé aussi des mots comme subsidiarité, c'est-à-dire des mots qui viennent du vocabulaire clérical médiéval repris par les technostructures européennes. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, et en fait ça voulait dire essentiellement à chaque fois des manœuvres. Il y a un travail sur quasi orwellien sur le vocabulaire. On parle de liberté responsabilité, on fait le contraire inverse, on détruit les libertés et on donne tout pouvoir à un individu, à un président qui devient omnipotent et ayant tout pouvoir. On parle de compétences élargies et c'est exactement l'inverse. On donne encore moins de moyens. Il y a eu toute une période où, enfin, on a vu, un grand nombre d'universités sont tombées dans le rouge et même le rouge incandescent pour certaines. Et il fallait surtout pas dire non, tout allait bien, etc. Par exemple, en année, notre université était pendant 5 années successives en déficit budgétaire, et donc la loi disait qu'on devait être sous contrôle rectoral, mais non, en aucun cas, il fallait... Le LMD était vendu comme l'auberge espagnole, c'est formidable, on va aller...
Le LMD et la réforme pour permettre d'avoir une uniformisation européenne de l'accès au diplôme, avec une belle idée comme quoi les étudiants peuvent passer de n'importe quelle fac en France à n'importe quelle fac au fin fond de l'Allemagne.
Absolument, donc c'était cette idée du film L'auberge espagnole, donc on va aller voir des Suédoises à Barcelone, des Norvégiennes en Andalousie etc. On va pas décliner, mais en fait qu'est-ce que ça a été? Jamais il n'y a eu aussi peu de mobilité des étudiants. Au contraire, les étudiants sont devenus de plus en plus accrochés à l'université, ne bougeant pas. Et ça a été le pire des exercices de calendrier, avec des calendriers qui sont devenus juste affreux et qui font que tous les maîtres de conférences sont au bord de s'automutiler à chaque année.
Un mot qu'on n'a pas cité, c'est le fameux mot de départ qui était le mot autonomie, avec des lois qui avaient pour but de donner des responsabilités et de l'autonomie aux universités. Alors finalement, l'autonomie de fait, l'autonomie scientifique, l'autonomie pédagogique, elle l'avait déjà. Elle a été gagnée en 68, celle-là. Et finalement, ce qui est fou, c'est que ces lois ont fait l'inverse. Cette autonomie-là a été perdue avec l'obligation de devoir gérer une quantité de projets de gestion et d'obligation de respect de règles, de normes et de lois de vote qui empêchent l'autonomie réelle.
Absolument. Et donc, bon, peut-être on en parlera plus tard, mais avec il y a une modification totale de nos métiers. Vous voyez que je suis un vieux chercheur, ça se voit, mais tempes grisonnantes, ou plus que grisonnantes, on est à peu près tous à se dire, mais il y a 30 ans, jamais on aurait imaginé, même ceux qui sont qui ont un tropisme pour être en permanence à imaginer le pire, jamais on aurait imaginé une destruction telle de nos métiers, de la et de nos capacités à travailler, à faire de la recherche de façon indépendante, de la recherche originale, et on a une augmentation de la bureaucratie et de l'administration qui est juste phénoménale.
En même temps, la recherche, ça sert à rien, puisqu'on a une caste dirigeante qui est omnisciente et qui sait tout mieux que nous.
Absolument.
C'est pas faux.
À quoi ça sert un chercheur? Ils savent tout.
On pourrait prendre aussi l'exemple malheureux de comment le CNRS a évolué, en quelques mots, sur ces dernières années.
Absolument, parce que beaucoup de gens se disent, bon, bah oui, finalement, les mandarins hospitaux universitaires, le monde hospital universitaire, il est parfois très provincial, il y a des toutes petites universités en province qui n'ont pas le niveau, il y a tout un monde. Bon, alors, l'université, ça n'est pas bien, et puis il y a ces problèmes avec les étudiants, trop nombreux, etc. Bon. Mais au moins le CNRS, là, on a une colonne vertébrale gaullo-communiste où c'est la science. Et donc on a eu des jolies écuries, des gens qui ont fait qu'on était sur de bons rails. Et au moins ça sera préservé. Cette recherche, là où les chercheurs ont un statut de fonctionnaires et sont protégés par ce statut, là au moins ça va échapper à toutes ces contre-réformes. Et bien pas du tout, il y a eu un paralysme de forme absolument total. On a eu aussi le pacte de la recherche qui a voulu aussi détruire, saucissonner le CNRS, et aussi, ce que ne se rendent pas compte souvent même les chercheurs du CNRS, ils s'imaginent être protégés. Et bon, quand il y a eu tout un tas de dispositifs qui ont été créés d'évaluation, d'avis d'alerte, donc des chercheurs qui sont souvent sous des motifs, il y a parfois des règlements de compte ou des choses, et tout d'un coup un chercheur qui pourtant peut être très bien sera mis en avis d'alerte ou en avis réservé, et là c'est la descente aux enfers, il se retrouve dans une nasse où il peut très difficilement sortir, alors que tous ces dispositifs ont été mis soi-disant pour protéger les gens. Donc là non plus le CNRS et on le voit, on l'a vu par exemple dans notre université lors des dernières élections, le président du CNRS n'a pas hésité en infraction totale avec les règles qu'un haut fonctionnaire ne doit pas donner de consignes sur ses personnels, à donner les consignes de vote dans l'élection. Donc là on est on patauge dans le politique de part et d'autre.
Une des réformes fortes du CNRS, c'est couper une bonne part de ses crédits quand même.
Oui, les crédits, et surtout les crédits récurrents, c'est ça le problème. C'est-à-dire que je me référais à des périodes, à un âge d'or. C'est on va pas parler des jours heureux comme dans le Conseil national de la résistance, mais enfin en tout cas, il y avait une possibilité de travailler avec un minimum. Pour travailler, pas forcément beaucoup d'argent, mais un minimum qui fait qu'on n'a pas en permanence à remplir des demandes d'argent pour pouvoir faire son métier. Et là, on n'est plus du tout dans ces modes de fonctionnement. On est et donc la sérénité et la garantie de l'indépendance sérieusement attaquée.
Alors on va justement parler des conséquences de toutes ces réformes pour l'ensemble des chercheurs. Juste après une petite pause, on va écouter Les réseaux sociaux par Denis Lefdup.
Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux ? Besoin d'une paire de cannes afin de réapprendre à marcher. Pour nous réapprendre à marcher.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous poursuivons notre thème du monde de la recherche avec Jean-Marie Maillard, qui est chercheur à l'Université Pierre-Marie Curie et syndicaliste à la FSU. Et nous avons parlé dans un premier temps du mécanisme qui a fait basculer progressivement l'université vers un manque total de démocratie, une évolution des métiers du personnel, de passer de chercheur à autre chose. Et pareil pour le CNRS qui a vu une partie de ses missions et de son quotidien largement bousculée. Alors, on peut dire, mais pourquoi pas, tant mieux. Toute cette agitation pour faire bouger ces chercheurs qui sont dans leurs éprouvettes poussiéreuses. Alors, est-ce que c'est un bien, finalement, toutes ces réformes ?
Bon, alors, évidemment, on peut être un fanatique des destructions schumpeteriennes et dire que toutes ces contre-réformes vont stimuler, au contraire, l'organisme scientifique et faire que, à force d'être attaqué à la tronçonneuse, on va se vivifier. Et bon, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gens subissent. Et bon, il se trouve que là, on a parlé des différentes casquettes, mais j'en ai une supplémentaire. Je suis aussi, en dehors d'être au conseil d'administration de cette belle et grande université, je suis aussi au CSHT. Là, je vois un grand nombre de personnes qui vont de plus en plus mal. On constate que les personnels, et pas uniquement les personnels BIAT dont on parlait, les ITA, mais les enseignants-chercheurs et les chercheurs, on voit un très grand nombre de ces personnels qui vont extrêmement mal. Il y a des problèmes de souffrance maintenant qu'on ne voyait absolument pas. On les voyait sporadiquement. Il y a toujours des gens qui présentent des problèmes pour des raisons personnelles. Là, il y a un côté vraiment structurel. La destruction de nos métiers, la perte de sens, ces pratiques managériales qui font que de plus en plus, on va avoir des personnels qui sont confrontés à des petits chefs au-dessus et qui usent ou abusent de leur pouvoir. Ça induit de façon systématique, c'est pas juste conjoncturel, ça devient structurel, une destruction. Alors, parlons même pas de solidarité, là ça a disparu depuis longtemps dans nos milieux, mais de la collégialité, de cette indépendance, les choses sont attaquées au fond, c'est-à-dire que le métier de chercheur n'a de sens que si on fait une recherche profondément originale et créative. Là, cette pression à la publication et puis cette évaluation et ce management, ce néo-management fait que les gens sont amenés à faire des choses très redondantes et qui sont tout à fait non originales.
Alors, on va rentrer dans les détails parce que les gens ont peut-être pas toujours en tête ce que ça veut dire. D'abord, quelque chose qui est toujours vanté pour le chercheur, c'est d'avoir du temps et d'avoir la liberté de rechercher là où il veut, pas forcément là où on lui dit de regarder. Alors, historiquement, on a quelques exemples concrets, où finalement, si on dit à un chercheur de toujours creuser au même endroit, ben, il va rien trouver. Alors que s'il y a plein de chercheurs qui cherchent un petit peu partout, voire même là où a priori, il n'y avait rien, c'est là où les plus grandes découvertes ont été faites, c'est là où la pénicilline a été trouvée sur une tartine qui traînait dans un coin de laboratoire. Einstein lui-même a été pendant toute sa vie décrié, moqué, ses interventions dans les différents symposiums où les gens lui hurlaient dessus en disant qu'il racontait n'importe quoi. Voilà ce que c'est. Ou Boltzmann qui écrivait des formules a priori complètement folles sur sa tombe qui aujourd'hui sont apprises par toute personne apprenant un minimum de thermodynamique. C'est ça la leçon de l'histoire. Or, aujourd'hui, on va dire aux chercheurs, non, allez, arrête de chercher n'importe où, on te met un projet.
Absolument. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que de plus en plus, pour avoir cet argent, les gens sont amenés à passer dans ce dispositif, sous les fourches codines de ce dispositif d'appel à projet, ce qui veut dire très souvent jouer avec des mots-clés, en imaginant, les mots chatoyants du moment, ça sera alors bio et ceci, ou big data. Et bon. Donc il y a une chose de fraude. On est amené à raconter des salades, on le sait.
Alors, c'est le mot de fraude.
Il fut un temps où, l'honnêteté intellectuelle est atteinte. On se dit, c'est un mauvais moment à passer, il s'agit de récupérer un peu d'argent, mais je le fais pour la bonne cause. Ça servira pour payer mes étudiants, pour faire en sorte que le laboratoire puisse fonctionner, mauvais moment à passer. Et puis, à la fin, les gens se retrouvent dans ce dispositif où ils passent de plus en plus de temps à prétendre qu'ils vont faire de grandes découvertes sur des mots-clés chatoyants du moment qui changent tous les 6 mois. Hein, parce que donc c'est un temps perdu absolument considérable sur des choses dérisoires, parce que c'est le chercheur n'est pas là pour remplir des romans correspondant à des choses bon, des mots clés faux et malhonnêtes. Et puis c'est pas une fois qu'il va faire ce dépôt, il va le faire deux fois, trois fois, dix fois, parce que quand on voit par exemple les taux de succès à l'ANR, c'est passé en dessous de 10%, c'est 8%, et encore c'est 8% sur la moyenne. Donc quand on regarde la recherche fondamentale, la vraie recherche fondamentale, pas une recherche plus ou moins appliquée, c'est largement moins de 8%. Ça veut dire qu'essentiellement on va déposer, hein, on va passer trois semaines de sa vie à écrire des bêtises pour éventuellement au bout de la dixième fois avoir quelque chose. Et en fait, les choses sont quand même très très biaisées parce que les comités d'experts sont là aussi, je sais pas que c'est les copains et les coquins, mais enfin il y a des biais. Et bien le temps passé à écrire en pure perte, le temps qui est passé par ces experts sont payés et puis pendant qu'ils font ça, ils ne font pas leur recherche ou leurs enseignements. Bon. Et puis après, il y a toutes les structures style ANR ou autre, où là, il y a vraiment du personnel. Bon, rappelons peut-être que le président de l'ANR, c'est un des personnages de l'État qui touche la plus grosse prime dans la fonction publique. Si on fait le sigma, la somme de toutes ces... de tous ces coûts, parlons au coût complet, hein, utilisant le même vocabulaire que nos beaux comptables et libéraux, eh bien, c'est une gabegie totale. Donc on prétend, on dit ah non, on va pas saupoudrer, mon Dieu, quelle horreur de saupoudrer, donc de permettre l'activité indépendante des gens, on ne va donner que, dans une logique anglo-saxonne, the winner takes them all, on verra quel est le meilleur, et après, lui, on l'inonde d'argent. Et là, la pluie continue de tomber là où c'est mouillé. Bon, en fait, ce dispositif-là est absolument contre-productif et dysfonctionnel et dérisoire.
Dérisoire, sachant que le nombre de papiers qui ont qu'une petite virgule entre eux augmente considérablement. Et voire même les gens qui vont publier un résultat faux ou partiellement faux parce qu'il y a une pression à publier. La seule façon d'évaluer un tant soit peu proprement la quantité de production de recherche, si tant est que ça a un sens de vouloir évaluer cela, c'est les articles scientifiques. Et pour avoir un article scientifique, tout est bon, comme on vient de le dire.
La recherche, c'est Monsanto qui donne les résultats.
Mais Monsanto, typiquement, ou ces grands laboratoires aussi de pharmaceutiques, dans un autre exemple, ont pour habitude d'aller piocher chez les chercheurs ce qui a déjà été fait. Hein. Ces gros laboratoires ne financent pas de la recherche. Ils achètent des produits déjà tout faits. Hein.
La différence entre la recherche et la recherche et développement. Et en économie, ce qui compte, c'est avant tout la recherche et développement.
En économie, peut-être, mais pour le bien de la société, on préfère des chercheurs quand même.
Absolument.
Quand je dis en économie, hein, je ne suis pas en train de prétendre que réellement on a besoin que de recherche et développement. Je dis que dans leur modèle, les économistes ne prennent en compte que la recherche appliquée.
Alors il n'y a pas que cette pression sur les chercheurs, c'est aussi sur ce qu'est le quotidien de l'emploi. Baisse totale des fonds récurrents, baisse du nombre de postes, précarisation totale des jeunes chercheurs aujourd'hui.
Oui, absolument. Et donc, on passe d'une situation où le chercheur était indépendant et cherchait à être créatif et original, alors, parfois dans la difficulté et la souffrance, mais enfin, c'était la beauté aussi de la chose, une situation où on lui demande essentiellement d'être un petit manager qui va s'occuper de tout un tas de thésards, de récupérer de l'argent et donc gérer des précaires et donc augmenter ce précariat et sur des sujets qui devront être vite fait, mal fait, parce qu'il s'agit de que ça tourne, que les publications tournent vite et qu'elles soient faites par justement des jeunes qui démarrent, n'ont pas la bouteille suffisante pour faire un travail en profondeur. On leur laisse pas le temps d'approfondir les choses, donc on aide à faire du surf en permanence et très très loin d'un travail véritablement original. Mais précariat, donc souffrance et là aussi perte de sens et perte de sens de tous ces métiers.
Alors on peut se poser une dernière question et puis on va arrêter pour rendre l'antenne, bien sûr, c'est mais comment les chercheurs ont gobé tout ça?
Oui, c'est l'excellente question. C'est-à-dire que
Bon, les choses sont passées en force. Moi, je prends la comparaison de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, par exemple. On a toujours tendance à dire, bon, bah oui, les anglo-saxons, ils ont une culture comme ça, libérale ou ultra-libérale, Margaret Thatcher, etc., Tony Blair, bon, la troisième voie, la gauche. Tony Blair était beau, jeune, aux dents blanches. Donc ça rappelle un peu un président actuel qui est si beau, ressemblant à Boris Vian, mais en mieux habillé. Bon. Et donc tout va passer. Bon. Tony Blair a imposé des réformes très, bon, qui sont exactement ces réformes néo-managériales qui détruisent absolument notre tissu, la sève même de notre activité, nos métiers. Ça a été imposé en Grande-Bretagne. Il faut pas croire que les chercheurs et universitaires britanniques se sont laissés faire. Les étudiants, ils ont largement manifesté de façon forte une première année. Évidemment, Tony Blair, qui était beau, jeune et évidemment avec toute la légitimité démocratique qu'il pouvait avoir, comme on peut l'avoir ici avec 15% des inscrits, il a dit ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. L'année d'après, il y a encore eu des manifestations fortes, et l'année suivante, et après, eh bien voilà, c'était terminé, les gens avaient pris le pli, et maintenant ils ne se souviennent même plus de ce qu'était l'université britannique avant. Et grosso modo, il ne reste plus que Oxford, Cambridge, et puis éventuellement ici ou là, telle ou telle université sur tel sujet pointu, mais on est face à un champ totalement dévasté. Et tout le monde dit que c'est très bien.
Et pourtant, un véritable appauvrissement de la quantité de recherches originales produites.
Absolument, oui.
Alors on va terminer là-dessus parce qu'il faut qu'on finisse avec l'agenda. Jean-Marc, à toute vitesse.
Alors, samedi 14 octobre à la Bourse du Travail de Saint-Denis, débat sur la gestion publique de l'eau, remunicipaliser l'eau à Saint-Denis et à pleine commune.
Et alors, toujours le samedi à 14 octobre 2017 à 16h, si vous avez le temps, en partant de Saint-Denis, vous pouvez rejoindre le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris où il y a un rassemblement contre l'augmentation l'intention de retirer 5 € par mois sur les APL.
Et juste après, vous courez pour une réunion à la Bourse du Travail à 18h, 29 au boulevard du Temple. C'est une rencontre avec Yanis Varoufakis, ancien ministre grec des Finances, organisée par Mediapart, Attac et l'éditeur Les Liens qui Libèrent.
Alors toujours 14 octobre à 9h30 du soir, place Saint-Germain-des-Prés, rallumons les étoiles en éteignant les pubs. À l'occasion du journal de la nuit, RAP appelle à organiser des actions d'extinction d'enseignes et de recouvrement de publicité lumineuse pour revendiquer l'arrêt de toute dépense énergétique à des fins d'affichage extérieur.
Cette fois, le mardi 17 octobre à 19h au café Le Royal Est, 129 rue du Faubourg Saint-Martin, une réunion publique unitaire, loi, travail, retrait des ordonnances.
Alors, le mardi 17 octobre à la Maison des Métallos, 94 rue Jean-Pierre Timbaud, et le jeudi 19 octobre à 19h, Café Associatif, la Commune, 3 rue d'Aligre, Ciné-Croc d'Attaque, Paris 11 et Paris 12, Inspecteur du Travail, une rencontre, un film de Jean-Pierre Bloch.
Toujours le mardi 17 octobre à 19h45 au foyer de Grenelle, 17 rue de Lavre, une conférence débat sur la déferlante des accords de libre-échange, le CETA et ceux qui suivent par Attaque 15e.
Alors, on arrête et on remercie notre invité Jean-Marie et puis tous ceux qui nous ont rejoints, Patrick, Jean-Marc, Agaël, Alex, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre. Et puis à la technique, nous avions Ludo et Claude. On termine en écoutant Ibrahim Malouf sur son CD Wind, le morceau Question and Answers.